Fans 100.9 The West.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
h 59. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98h Radio X. Je vois dans mon plan d'émission que nous sommes déjà au début de la sixième semaine de la saison. Et on aura une petite nouveauté pour vous, mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter l'animateur de l'émission Radio X-Files, M. Christian Page, qui est le chef d'orchestre de tout ça. Comment vas-tu, Christian?
Ça va bien, Camille. On a eu un magnifique week-end, alors
tellement.
On en a profité et... Il faut quand même se rappeler que c'est peut-être parmi les derniers beaux week-ends de la saison avant les premiers froids de l'automne et ensuite, malheureusement, l'hiver.
Effectivement, on ne sait plus trop comment s'habiller, quoique aujourd'hui, il n'y avait aucun doute. Là, c'était de la chaleur sur Québec, probablement dans ton coin aussi, mais les nuits se font fraîches. Alors, tranquillement, pas vite. On va se promener dans des décorations d'Halloween.
Et contrairement à ce qu'on avait dit il y a deux ou trois semaines, tu me disais, déjà, je commence à voir les feuilles qui changent de couleur dans les arbres. C'était pas encore arrivé dans la région de Montréal, mais là, je peux te dire que depuis une semaine, on voit très clairement le feuillage changer de couleur. Donc, ce qui nous annonce que l'automne est à nos portes. Hein? L'automne, d'ailleurs, qui est dans à peu près une dizaine de jours.
Oh, je vis encore dans le déni, mais il n'y a aucun doute maintenant. C'est là qu'on s'en va chaque année. C'est inévitable. Oui. On a une première ce soir, Christian, pour notre thématique sur les ovnis. On a une invitée qui est en direct avec nous.
Oui, parce que quand on dit l'émission sur les ovnis, on ratisse large. On dit les ovnis et les créatures étranges et mystérieuses.
Oui.
Et ce soir, on va tomber dans cet univers-là. Mais avant d'aborder la thématique du jour, permets-moi, Camille, de faire un correctif à propos de notre émission de jeudi dernier.
Oui.
Où on parlait du satanisme. Tu te rappelles, à un moment donné, dans mon discours, je t'ai évoqué cette histoire très célèbre en France qu'on appelle l'affaire des poisons, qui s'est produite sous le règne de Louis XIV,
oui.
Où des gens de la petite noblesse ou de la bourgeoisie se sont livrés à des séances de satanisme, dit-on, à des sacrifices d'enfants et en même temps à des empoisonnements pour se débarrasser ou bien d'un mari devenu encombrant ou d'une épouse répudiée. Donc, on faisait également des poisons. Il y avait commerce là-dedans. Et je t'ai mentionné que l'une des proches de Louis XIV faisait partie de ce groupe-là. Le roi avait délaissé sa couche et elle espérait obtenir à nouveau les faveurs du roi. Et je t'ai mentionné que cette dame était Madame de Pompadour. Et heureusement, un auditeur qui connaît... En fait, d'ailleurs, je souligne qu'on a des auditeurs en France. Et l'un d'entre eux m'a écrit pour me dire que ce n'était pas Madame de Pompadour, c'était Madame de Montespan. Et c'est tout à fait vrai. Donc, Madame de Montespan, qui était cette fameuse favorite de Louis XIV et qui a participé à ces soirées occultes et diaboliques, alors que Madame de Pompadour, et là je fais mon mea culpa, était plutôt une favorite de Louis XV. Les gens diront, ça change pas grand-chose, Madame de Pompadour, Madame de Montespan, ça ne change rien au fait, mais néanmoins, pour la rectitude de l'histoire, il s'agissait de Madame de Montespan et non pas de Madame de Pompadour. Ce n'est pas la même personne, on n'est même pas sous le même règne. Hein. Madame de Pompadour était, comme je l'ai mentionné, une favorite de Louis XV et non pas... alors que Madame de Montespan était l'une des favorites de Louis XIV.
Et on a le devoir de l'information, de la corriger dès qu'on l'a. Donc, on salue soit les oiseaux de nuit de la France, ou ceux qui nous réécoutent en rediffusion sur le site web.
Et mes excuses à tous les grands, à nos cousins français,
ben oui.
Et à tous les amateurs d'histoire de France. Et merci d'avoir souligné ce détail qui, tu vois, ça me prouve une chose, Camille. J'ai tendance à trop m'en remettre à ma mémoire. Et est-ce la maladie ou est-ce finalement la vieillesse? Mais néanmoins, je devrais peut-être prendre plus souvent des notes. C'est une erreur que j'aurais jamais commise il y a 5 ou 7 ans. Là.
Ça peut arriver. Personne n'est parfait.
On est tous humains. Voilà, on est tous humains.
Et tu en sais déjà pas mal par cœur. Une petite erreur comme ça, des fois, de temps en temps, tu es pardonné, mais surveille pareil, j'ai peut-être mis quelque chose dans ton café.
Puis je suis content que les gens sont à l'écoute et les gens font ces remarques-là et on peut le faire, et ça a été le cas dans ce cas-ci, on peut le faire de manière polie et...
C'est flatteur,
courtoise. Les gens disent, écoutez, je souligne que c'était pas Madame de Pompadour, Madame de Montespan. Montespan, bon voilà, c'est parfait. Et je me fais, comme tu le dis si bien, on se fait un devoir de corriger lorsqu'il y a ce genre de bévue. Cela étant, on arrive à notre sujet de ce soir. On parle ici d'un... Pour reprendre les thèmes de les termes de notre invité, on parle du phénomène du lac des Caries. On va le laisser lui-même s'exprimer sur cette histoire de phénomène du lac des Caries. Notre invité, c'est Yvon Leclerc. Yvon, je le connais depuis des décennies, donc ne soyez pas surpris si on se tutoie. Et Yvon, pour un peu situer les auditeurs, ça, je le définirais, ou il se définit lui-même, comme un spécialiste des empreintes fossiles amateur. Et je tiens à préciser ici, le mot amateur ne veut pas dire incompétent, mais dans le cas de Yvon, parce que croyez-moi, il est particulièrement compétent, mais Yvon ne fait pas partie, ne fait pas partie de l'ordre des paléontologues. C'est un type qui a une formation en art, mais il s'intéresse à ce phénomène des empreintes fossiles depuis des décennies. Il a développé des pratiques, il a développé des techniques qui sont bien à lui, très efficaces. Et donc, quand on dit amateur, ça veut pas toujours dire incompétent, ça veut dire que t'es pas payé pour faire ce que tu fais.
Ben non, et rendez-vous...
C'est ça. Et donc, c'est donc Yvon Leclerc. On sait, si on a j'ai la chance, à la toute fin de l'émission, je te raconterai une petite anecdote à propos d'Yvon, comment il me rabaissait le caquet d'une certaine façon. J'étais très prétentieux quand au milieu de la vingtaine, et grâce à Yvon, j'ai eu ma leçon. Mais enfin, je suis très content qu'il se joigne à nous ce soir. Donc, je sais qu'il est en ligne.
Oui.
Yvon, tu es là?
Oui. Bonjour, ouais. Christian. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Bonsoir, Yvon. D'abord, un gros merci de nous accompagner pour cette émission des Radio X-Files.
Ben, ça me fait plaisir.
J'ai mentionné en entrée de jeu qu'on allait parler du phénomène du lac des Caries. Je reprends ici une expression que tu as toi-même utilisée dans une télévision communautaire pour parler de ce phénomène. Est-ce que tu peux d'abord nous résumer comment cette histoire-là apparaît? Comment ça commence?
OK. Ben, juste avant, Christian, je voudrais compléter ce que tu as présenté quand tu m'as présenté.
Oui.
Effectivement, tu es un amateur, ça m'a très avancé.
Oui, je l'ai mentionné.
C'est important. Parce que, ça fait 30 ans que je suis spécialiste des empreintes fossiles, premier défaut. Deuxième, c'est que j'ai présenté comme amateur, seulement quand on est rendu dans les congrès internationaux où on présente deux présentations dans le Congrès international d'Argentine sur les empreintes fossiles, la méthodologie et l'application. Et la même année, présenté au Congrès de paléontologie canadien, rendu dans ces congrès-là, on s'appelle plus docteur, on s'appelle des confrères.
Oui, aucun doute.
Donc, c'est juste le diplôme qui fait la différence. Seulement, ce qui est intéressant, moi, j'étais un homme d'observation depuis que je suis enfant, et partir de là, j'avais entendu parler de différents phénomènes, et avec ma vision d'observateur, et de, je dis souvent, spécialiste de la généralité, donc, j'ai apporté mon point de vision, OK, au niveau d'art, au niveau des différentes techniques et que j'ai appliquées, que j'ai présentées au Congrès international. Et juste avant ça, en 1990, j'ai travaillé 2 ans et demi, tu te rappelles de ça, là, avec le docteur Bill Sargent, qui oui. est à l'avis du Musée d'art, des sciences naturelles d'Ottawa et du Musée d'Alberta, là, avec Philippe Thury, qui m'ont dit le seul qui pourrait me répondre concernant la fameuse empreinte de reptile, c'était Bill Sargent. Okay? La seule personne en Amérique du Nord, puis d'après Philippe Thury d'Alberta, c'est le seul qui pourrait me répondre dans le monde. Donc, j'ai travaillé avec 2 ans et demi pour arriver à une conclusion où il avait confirmé mes méthodes de travail. C'est-à-dire que tout ce qu'il croyait était presque tout erroné, c'était mes méthodes à moi, qu'on parlera tantôt, là, qui avait raison. Donc, c'est une approche complètement différente. Et il y a jusqu'à un an, j'étais membre de l'Association mondiale des spécialistes des empreintes fossiles et de la Commission géologique du Canada. Donc, j'ai laissé tomber ça parce que je me cherche pas une job. Puis, je trouvais que ça tournait en rond un peu.
Ouais. Pour l'émission de ce soir, on va inviter les auditeurs à se présenter sur la page Facebook parce que M. Leclerc nous a laissé une photo qui va être très utile si vous voulez avoir un visuel ce soir sur la page Facebook de Radio X-Files. Et M. Leclerc, je vous laisse poursuivre.
Oui, ben c'est ça. Dans le cas du phénomène du lac des Caries, c'est une affaire, à mon avis, c'est le cas en cryptozoologie qui a été très bien documenté.
OK, permets-moi de t'interrompre une seconde, Yvon, pour un peu pour situer les auditeurs, parce que malheureusement, quand on parle, nous, on sait de quoi on parle, mais c'est pas forcément le cas avec les auditeurs.
C'est parfait.
Le lac des Caries, ça se trouve dans la région de Joliette, de Saint-Jérôme, pardon, c'est ça?
Non, ça se situe...
Saint-Sauveur.
Oui, Mont-Laurier. Okay. Mont-Laurier, Terre-Neuve.
OK. Et quand on parle de cryptozoologie, il faut dire aux auditeurs, la cryptozoologie, c'est la science des animaux inconnus ou non reconnus par la science.
De légendes, parce qu'on parle de quelques données. Et ce qui fait qu'on s'y intéresse, c'est la quantité d'informations qu'on recueille à travers le temps qui sont concordantes. Et en ce moment-là, on se dit, ça vaut peut-être la peine de le fouiller.
Revenons au truc du lac des Caries. Comment ça commence? Donc, situe-nous un peu le contexte géographique et ensuite l'incident.
On connaît, pour certains, en tout cas, amateurs de cryptozoologie, on connaît les monstres marins, là, les monstres, je me souviens pas du titre exact, mais qui avait été publié par Stankey.
Oui.
Je me souviens pas.
Les monstres des lacs du Québec.
C'est quelque chose comme ça, avec Claude Gagnon, puis un autre.
Bon. Oui, Michel Morgère était le co-signataire.
Bon, c'est ça. Et puis, c'est par Claude Gagnon, qui était à l'Université du Québec dans le temps, que j'en avais entendu parler la première fois, du lac des Caries. Donc, moi, j'ai contacté, parce qu'il y a eu un moulage, on contrôle l'histoire, il y a eu un moulage de fait.
Mais avant de parler, est-ce que tu peux... Excuse-moi, Yvon, est-ce que tu peux simplement dire pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on parle du lac des Caries, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas de quoi on parle. OK, parfait.
Ça ne sera pas long. Non, c'est que, pour te situer le contexte là, de mon approche, c'est que j'ai appris qu'il y avait eu un cloud de fait suite à un phénomène, en plus de même, là, et que ça avait été envoyé dans une université qui était à Trois-Rivières. Au musée d'archéologie. Moi, j'étais ami avec le conservateur, j'ai pris contact avec, et ils avaient l'empreinte du phénomène. Bon, de là, il me l'a donné, et après ça, j'ai pris contact. Donc, si on se remet exactement le 24 juillet 1977, il y a un homme, Roger Châtillon, sa femme et son garçon, qui vont à la pêche à un petit lac, qui est fait un peu en U. OK? Et c'est pas très grand comme lac, seulement relativement profond. On trouve pas mal de poissons de plusieurs espèces. Ils vont souvent à la pêche là. Et puis, vers 5 heures, ils amènent un lunch et tout ça. Puis là, ils se mettent une grosse orage électrique. Et puis, ils attendent dans le camion. Puis après l'orage électrique, un beau soleil d'été. Et puis là, ils mettent la chaloupe à l'eau vers à peu près 6-7 heures. Et puis, ça ne mord pas. Donc, ils décident de changer d'endroit puis s'en aller à un petit ruisseau qui se trouve être la décharge du lac des Cyprès. Donc, près de là, d'après eux, ils trouvent de la barbotte, ils trouvent des poissons, là, ils se sont dit ça va être plus chanceux. Donc, pour aller à cette pointe-là, là, qui, si vous imaginez un U à l'envers, la pointe du U, là, on peut pas
la pointe forme une presqu'île qui avance sur le lac.
C'est ça, exactement. Et à gauche, si on se met sur la presqu'île, puis on regarde vers le lac, à gauche, vous avez un ruisseau. Okay? Donc, il débarque là, et puis le Jean-Luc, le fils, regarde, papa, il y a des drôles d'empreintes. Il n'y avait aucune empreinte humaine. Et là, son père dit, rembarque dans le chaloupe, va pas là, on ne sait pas c'est quoi, et tout ça. Bon. Eux autres ont entendu des bruits quand ils étaient à la pêche, là, disons, à droite du lac. Ils n'ont pas porté attention plus qu'il faut. Seulement, ils ont vu des castors ou des choses comme ça. Donc, Ils sont revenus à la maison et le lendemain, ça c'était un dimanche, donc le lundi, ils ont appelé les gardes de chasse et nommé Richer, qui a ri un peu de toute l'affaire. Et ils ont pris contact avec le maire de la place, si je ne me trompe pas, qui était le docteur Paquette, qui est le médecin coroner de la place.
Ouais. Je viens de dire, si les gardes-chasse ont ri, c'est parce qu'il faut dire que les empreintes qui avaient été observées ne ressemblaient pas à des empreintes d'ours.
Là, je ne connais pas ce qu'ils ont fait comme description. Ça m'a en tout cas, ça a valu des rires.
Mm-hmm.
Okay. Et là, ils ont contacté le coroner, qui était un ami, et d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis, ils sont retournés le lundi, eux, quand ils ont vu les gardes-chasse ne voulaient pas. M. Châtillon est retourné avec deux témoins, un nommé Trudel et un nommé Letendre. Et ils ont fait un moulage qu'ils ont rapporté. Et puis, ils ont contacté le docteur Paquette, Jean-Claude Paquette. Et donc, puis,
si je comprends bien, Yvon, au moment où ils sont retournés, oui. Puis si Camille a des questions, elle peut intervenir.
Bien,
mais
oui,
si je comprends bien, au moment où ces gens-là, ces témoins, retournent sur la presqu'île, et oui. Les empreintes sont toujours présentes. Est-ce qu'on parle d'une empreinte, 10 empreintes? Est-ce que tu as ces détails-là?
Oui, effectivement. Bon, là, à partir de là, ils ont fait un moulage. Et le mardi, ils sont retournés avec les gardes-chasse. Deux gardes-chasse, et puis le docteur Paquette. Et là, ils ont pris les dimensions et ils ont fait vraiment un bon travail avec le plâtre. Ils avaient déjà le plâtre, donc ils ont mesuré chaque empreinte. Les empreintes faisaient, pour situer les auditeurs, là, imaginez-vous une patte de poule avec un ergot en arrière, donc une espèce de doigt à l'arrière du talon, là,
mm-hmm. Okay,
et mettez-le palmé, seulement à 18 pouces de longueur.
Donc, c'est loin d'un ours, là.
Ça fait une grosse poule. Ça fait une grosse poule.
Disons plutôt une grosse dingue.
Oui.
Puis encore. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voir d'abord une bonne démarche, un moulage avec des témoins. Ensuite, d'être seul, garde de chasse avec le coroner. Et là, il relève les dimensions des empreintes, les mesures, les distances, et puis toute l'observation du site. Donc, ils observent qu'il y a une empreinte qui sort de l'eau, qui est encore dans l'eau, et un peu plus bas, sur le bord de l'eau, ça coupe à peu près à 3-4 pieds de profond, à 90 degrés.
Okay? Okay.
Donc, l'animal est sorti de là, il voit une empreinte dans le fond de 3-4 pieds. Ensuite de ça, il en voit une sur le bord de l'eau, puis ensuite de ça, là, avec un peu d'eau, et puis là, après ça, il voit 4 empreintes sur le sol, OK? À 4 pieds de distance. OK?
OK.
Et entre le pied gauche et le pied droit, on voit très bien une traînée.
OK. Je viens de dire, ici, je précise, si donc tu me dis une empreinte d'un pied gauche et un pied droit, donc on présume, ou pour différentes raisons, mais tu pourrais y revenir, on présume que la créature ou l'animal ou peu importe, c'est un bipède.
OK.
Oui, effectivement. Non, c'est sorti de l'eau, debout, parce qu'il y a deux pattes. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils décrivent, OK, puis on le voit sur les photos qu'on a récupérées, là, on voit une traînée qui pourrait facilement, ce qui serait logique aussi pour un animal de ce grosseur-là, ça prend un balancier quand tu marches debout. Donc, avec une queue qui fait à peu près 8 pouces de large. Et on voit des traînées de texture, là. Tu sais, c'est pas un beau cercle.
Okay.
C'est un cercle avec des rainures à l'intérieur. Donc, il y a une texture en dessous.
Okay.
Et logiquement parlant, ça concorde avec un animal qui marche debout de cette dimension-là.
Okay.
On n'a pas encore l'idée, seulement, en tout cas, avec une empreinte de 18 pouces, puis des empreintes de 4 pieds de distance, on imagine un animal assez gros.
Oui. Donc, si je comprends, pour encore une fois situer les auditeurs, on ne parle pas ici de l'identité zoologique de l'animal, on ne l'a pas, mais pour se donner une idée, on peut imaginer, par exemple, ces dinosaures ou les sauriens de la préhistoire qui étaient bipèdes et qui utilisaient leur queue comme balancier, comme contrepoids.
Pas juste eux autres. Un animal pense au kangourou. Ils ont une queue.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais tu sais, c'est purement physique, ça. C'est de la démarche d'un animal. Tu sais, moi, quand on étudie une empreinte, là, il faut tenir compte de la mécanique de la démarche. Tu sais, une empreinte, on pourra parler de ça à un moment donné, là, si ça donne, concernant le Bigfoot, c'est un des phénomènes aussi. C'est-à-dire que un des points importants, c'est d'observer la mécanique de la démarche du pied. Donc, un pied ne peut pas faire deux fois la même empreinte parce que oui. Le sol n'est pas le même. OK? Puis si on revient au contexte, là, moi, je prends juste ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai eu, ce que j'ai observé. On le verra après. Là, ce qu'on observe, c'est qu'on a un animal important, entre guillemets, là, qui sort de l'eau puis qui rentre à l'eau. Maintenant, okay. M. Châtillon décrit, M. Jean-Claude Paquette, le coroner, a fait un enregistrement d'une demi-heure à peu près, un peu plus, là, posant des questions à M. Châtillon. Qu'est-ce que vous avez vu, à quelle heure et toutes ces choses-là. Tu vois, là, donc on a des relevés d'empreintes, on a des observations bien soutenues, on a un moulage, on a quelque chose de bien étoffé.
Des témoignages.
Témoignages.
Dis-moi, Yvon, tu parles d'une empreinte. Si je comprends bien, donc, même si on avait 5 ou 6 empreintes, on n'a fait du moulage que d'une seule de ces empreintes.
Oui, c'est un des problèmes, ça, d'ailleurs, que tu as sûrement observé aussi dans le phénomène du Bigfoot. Malheureusement, on devrait faire un pied gauche et un pied droit. Les
toujours.
Gens ont toujours une empreinte. Puis c'est de valeur. Parce que c'est
d'ailleurs, rappelle-toi, Yvon, il y a 30 ans, je t'ai confié un pied gauche et un pied droit.
Oui, exact. Ça, c'est très rare.
Oui.
Puis, dans le cas de Boswell, par exemple, Grover Crane, ça avait fait un pied gauche, un pied droit. Dans certains cas, seulement, généralement, je pense à Jeff Meldrum, il y a 350 empreintes, puis c'est généralement une empreinte de chaque phénomène. Pour revenir à notre dossier, là, c'est que ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu des gardes de chasse. Il y a un médecin coroner qui s'est comporté en scientifique. OK? Les gens ont fait un beau moulage. On a tout ce qu'il faut. Puis un paquet de photos au Polaroid et au 35 mm. Tous ces dossiers-là m'ont été remis suite à quand j'ai eu l'empreinte. Je suis allé rencontrer là, le directeur, l'archéologue là, du musée d'archéologie de Troyes. Et on voit tout de suite là un des problèmes de la science, de certains hommes de science. C'est-à-dire qu'après 20 ans, que j'ai eu pris connaissance du dossier après 20 ans...
Si je comprends bien, l'événement remonte à 1977, mais tu as été informé de cette histoire-là qu'au milieu des années 2000, donc 2006-2007.
Je me suis occupé du dossier-là 20 ans après.
Okay.
Donc, l'affaire, c'est que ce qui est intéressant, qui démontre un peu le problème du milieu scientifique, disons des connaisseurs, que j'appelle, moi, là, si c'est pas dans les livres, ça se peut pas. Donc, puis c'est un avantage que j'ai eu, c'est que sur dans la boîte qu'il m'a donnée, il y avait à peu près un pouce de sable encore collé sur l'empreinte. Donc, tu vois, on ne l'a même pas analysé. Puis même si on avait voulu l'analyser, il n'était pas capable de dire quoi que ce soit. Puis ça, c'est une bonne affaire parce que, dans le fond, on a pu étudier le sable, puis avoir une preuve, puis comparer le sable sur place avec l'empreinte. Le sable sur l'empreinte. Plus que ça, on a trouvé un fil rouge dans le sable en question, dans la boîte, et on a su plus tard qu'un des gardes-chasse avait une chemise rouge. Ça vient, tu comprends?
Oui,
donc,
absolument.
C'est eu un avantage qu'il ne l'ait pas étudié, puis même s'il l'avait ouvert, on va le voir un petit peu plus tard, on est allé voir avec le dossier, là, après avoir parlé de ça dans les journaux et tout ça, on est allé voir des scientifiques, des 10 scientifiques, des diplômés, naturellement, et que j'appelle, moi, malheureusement ou heureusement, là, des connaisseurs.
Okay.
Et quand je dis les connaisseurs, c'est que même eux, ils ne pouvaient pas rien dire concernant l'empreinte. Parce que d'abord, ce n'étaient pas des spécialistes d'empreinte, première des choses. Bon. Et vous allez voir l'espèce de réponse. Donc,
Je viens de t'interrompre, Yvon. Oui. Mais en même temps, comme tu dis, si on a trouvé du sang, on a trouvé une fibre rouge, ça montre donc qu'il y avait eu une contamination du milieu et qu'eux n'avaient même pas pris le temps de faire ces vérifications-là d'usage. Puisque tu as l'empreinte avec encore une partie de l'environnement et de la contamination de l'environnement qui est dans la boîte.
Ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que d'abord, ça démontre qu'ils ne l'ont jamais étudié, ils ne l'ont jamais regardé d'abord. Parce que s'il l'avait regardé, le sable ne serait plus là.
Ouais. Et la fibre non plus.
Exactement. La preuve, quand j'ai pris le sable puis je suis allé en laboratoire de génie civil, le technicien, première chose qu'il a faite, il a vu le film puis il l'a jeté. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas d'affaire dans ça. Mais non, ça a eu un rapport. C'était dans la boîte.
Oui.
Puis là, on n'avait pas encore les
photos. Non, mais tu sais, c'est comme aberrant parce que j'essaie d'imaginer ça ou de comparer. J'ai pas la même expertise que toi, mais comme j'ai travaillé sur beaucoup de séries télé concernant le crime, tu sais, j'essaie de m'imaginer, par exemple, le spécialiste en laboratoire qui arrive sur une scène de crime puis il voit une fibre de couleur qui
n'a pas d'affaire
avec le tapis. Puis il jette la fibre. Tu sens pas d'affaire là. Le tapis est bleu, puis une fibre rouge. Jette la fibre.
C'est de l'évidence, c'est une preuve.
Oui, mais écoute, je serais surpris. Moi, j'ai un ami, Gérard Leduc, qui est allé sur un site américain, OK, de fouilles archéologiques, et puis ils ont trouvé un morceau de fer, OK, pas dans la bonne couche, OK? Il est allé montrer ça à l'archéologue. L'archéologue l'a pris, puis il l'a tiré dans le bois.
On s'attend pas à ça!
Non, mais ça, je peux raconter des choses comme ça, là.
Okay? Ouais.
Donc, on voit un peu le problème, là. Bon, si on continue dans l'affaire. Donc, tout ce dossier-là, qui était pour une fois bien monté, avec photos, interviews des témoins par un coroner qui a fait une bonne job, on mesure les empreintes et tout ça. Moi, je contacte les gardes de chasse. Les gardes de chasse ne voulaient pas parler. Parce qu'ils m'ont dit, on est tannés de faire rire de nous autres. Bon.
OK.
Fait que moi, je suis monté à Mont-Laurier, à Ferme-Neuve, rencontrer les gens, donc le docteur Paquette, 20 ans après. Ils sont tombés sur le dos quand ils m'ont vu avec l'empreinte.
Okay.
Et je me suis donné l'empreinte officiellement, OK, en m'engageant à les tenir au courant des démarches, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et puis avec témoins, là. Et là, j'ai rencontré un des gardes de chasse, M. Talbot, si je ne me trompe pas. Et je suis allé au bureau. Et puis, le nouveau directeur m'a dit, écoutez, l'ancien directeur a fait un ménage avant de partir et ils ont jeté le dossier en question. Bon, fait que la madame...
Mais attends une seconde, Camille, il y a un punch. Il s'en vient.
Oui. Il s'en vient.
C'est ça. Non, mais on voit, là, tu sais, tout le dossier, là, on le met à la poubelle.
Il y a une nonchalance.
C'est bien clair. Puis là, d'autant plus qu'à travers tout ça, il faut dire que aussi, avant d'aller au bureau, j'ai reçu, puis j'ai ramassé les articles de journaux. OK? Donc, ces articles de journaux-là, ça riait de la... C'était une farce, et puis un nommé Plourde a dit que c'était lui qui avait fait ça le 9 juillet.
Monsieur Plouf, pas Plourde,
Plouf,
mais M. Plouf.
Plouf. Exact,
oui, voilà.
T'as raison. Oui, exact. Et là, c'est mes notes qui sont écrites à mi-temps, rapide.
C'est moi qui me cite de mémoire. Mais...
C'est ça. Ben, à 49 ans, c'est plus difficile quand même.
Oui, oui.
Donc, ceci dit, les journaux rient de l'affaire et tout le monde rit de l'affaire. Et il y a eu une enquête faite par un biologiste qui est allé voir un paléontologue à Ottawa. Bon, moi, je ne suis pas au courant de tout ça, là. Bon.
Ouais.
Sauf que je suis au courant des journaux, et puis là, je finis par contacter le nouveau directeur. En parlant au directeur, la secrétaire réceptionniste m'a dit, monsieur, est-ce que vous parlez du phénomène du lac des Caries? J'ai dit oui. Ben, elle a dit, écoutez, elle a dit, quand le directeur a jeté le dossier, je lui ai demandé la permission de faire une photocopie des
oh,
dossiers.
Oh, une chance qu'elle était là, hein?
Hey, quel punch, hein, toi aussi.
Tabarouette.
C'est miraculeux. C'est
exceptionnel. C'est oui. exceptionnel. Et là, dans ça, qu'est-ce qu'on a? On a le rapport de la visite des deux gardes-chasse qui sont allés le mardi. Okay? Une espèce de petit papier rouge mémo, là. Mm-hmm. Ensuite de ça, on a le biologiste qui va rencontrer. Il ne savait même pas qu'il y avait des plantes. Qu'il y avait un plantre, puis il ne savait pas qu'il y avait des photos. Ils okay. sont allés, lui est allé rencontrer un paléontologue au Musée des sciences naturelles d'Ottawa.
Mm-hmm. Okay?
Un paléontologue que je connais, qui est devenu, qui était biologiste de formation, qui s'est intéressé beaucoup à la paléontologie, et après ça, il est retourné à la biologie des baleines dans le bas du fleuve.
Mm.
Il s'est vu Pierre Bélan, que j'ai rencontré dans le cadre de mes travaux là, en paléontologie. Et Pierre Bélan a mentionné ceci. Je résume un peu l'affaire. C'est, à peu près, c'est très, très court. Là. On n'a jamais vu ça dans le passé, ni aujourd'hui. Donc, tout ça est faux. C'est incroyable.
Tout, oui, là, on a combien d'années d'échelonnés là, avec la perte du dossier? Puis...
Ben là, ça s'est fait probablement en 77, là, autour de ça.
À l'époque. Donc, c'est ça. Donc, autrement dit, si je résume les faits, il y a eu au départ les empreintes qui apparaissent. Il y a un bon travail qui se fait sur le terrain. Assez oui. rapidement, on va contacter des experts, mais l'opinion des experts est... On n'a jamais vu ça avant, donc ça ne doit pas exister. Merci, bonsoir. On ferme le dossier.
C'est ça. Seulement, quand faut faire attention quand on dit les experts. C'est pas vrai. Quand on dit, c'est parce que les gens sont portés à donner... on a remplacé les curés par les scientifiques. OK? Mmh. On va aller voir un paléontologue. Je pense, par exemple, à un paléontologue que tu connais, là. OK? Lui est spécialiste des... Michel, il est spécialiste des trilobites. Bon, ben ça, un doctorat, c'est très, très pointu. Hein. C'est,
oui.
c'est, il connaît pas tout. Là. Il connaît, il s'est fait sa thèse sur les trilobites de l'île d'Anticosti. Okay? Donc, c'est très précis. C'est pas parce qu'il a fait un doctorat en paléontologie, peu importe sa cause, là, de son sujet, qu'il fait un spécialiste.
Mais ça se place bien dans une phrase. J'ai fait un doctorat.
Ben, c'est parce que ça sécurise le monde.
Oui.
Bon, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Malheureusement, on fait rire de nous au Québec. Moi, je m'en fous, ma réputation est déjà faite, puis je n'ai pas besoin, je suis capable de m'en occuper toute seule de ma réputation. Ça fait qu'à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de voir, on a deux comportements. L'empreinte envoyée à l'université, on ne l'a même pas regardée, on en a ri. On va dans un musée important, on se fait dire que tout ça, on ne connaît pas ça. Ben moi, j'ai une nouvelle pour eux autres, ils ne trouveront jamais rien. Parce mmh. qu'une découverte, c'est quelque chose qui dérange. Donc, on n'a pas un comportement pour faire des découvertes au Québec.
Ouais.
On peut observer ça en général. Bon. Ça, c'est dit, là, on a le rapport aussi du biologiste. OK? Qui dit, on a fait, puis là, j'ai la copie du sonar. Le lac n'est pas assez profond pour contenir un animal de ce grosseur-là. Donc, tout ça est faux.
Okay.
Tu vois, là, on aurait l'avantage, je pense, dans certains cas de scientifiques, d'aller s'inscrire à des cours d'épistémologie. C'est-à-dire la logique, OK, et la démarche en science. Moi, je trouve qu'on a passé à côté, probablement, d'une découverte.
Mm-hmm. C'est pas parce que c'est pas parce que je traverse la rue que j'habite dans la rue.
Non, exactement. C'est ça. Il ne pouvait être que de passage.
C'est ça. Puis d'autant plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en 70, un nommé Wallet, qui aurait vu un animal qui dépassait à peu près de 4-5 pieds de l'eau, hors de l'eau, qui dit, avait une tête de cheval à peu près, ça m'a avec un bec de canard. OK?
Okay.
Ensuite, de ça, en 74, un nommé Robitaille et Mayer, qui aurait vu aussi un animal ressemblant à un marchant debout comme un kangourou, avec les pattes avant courtes.
Oui.
Et, bon. Et ça, c'est intéressant parce que on parle en 74.
Okay.
Donc, le récit est avant le récit de 77.
Oui.
Et on a la preuve par les empreintes qu'on a un animal marchant debout. mm-hmm. avec un balancier qui est une queue.
Oui. Je veux pas te vendre le punch aussi, mais je sais que j'aimerais que tu commentes aussi. Il y a aussi des images de Radio-Canada qui ont été tournées dans le secteur.
Exactement. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, il y aurait eu 15 jours avant que Radio-Canada serait allé, puis là, j'ai parlé au journaliste, donc je me souviens plus le nom, seulement je sais qu'il est devenu journaliste important parce qu'il couvrait la campagne de Jean Chrétien à travers le monde. Il s'est intéressé à la politique après, là, puis il a couvert... En tout cas, c'est un journaliste, je pourrais retrouver le nom, là, seulement, en tout cas. Lui, je lui ai parlé, il m'a dit en aucun cas qu'il a senti chez les témoins une espèce de canular ou de quoi que ce soit dans le genre. Okay? Et okay. ils avaient pris des empreintes à travers le bois qui ressemblaient à l'empreinte de plantes.
Qu'on a trouvé aux empreintes trouvées sur la presqu'île.
C'est ça.
Donc, dis-moi, Yvon, c'est parce que je t'interromps parce que je vois le temps qui file, puis de toi et moi, on peut entretenir des conversations pendant des heures, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus, qu'on accélère un peu. Tu as le moulage et tu décides de faire une analyse de ce moulage. Raconte-moi la technique utilisée et qu'est-ce que tu as découvert sur ce moulage?
Bon, c'est ça. C'est que en 77, ben depuis 30 ans, là, 1990, j'avais travaillé, moi, avec mes techniques, comme tu mentionnais, j'ai fait mes beaux-arts, entre autres, là, et donc beaucoup de choses. Et avec ma vision pluridisciplinaire, j'ai abordé le sujet en 90 sur l'empreinte de reptiles. Et donc, Bill Sargent a confirmé que c'était mes techniques à moi qui avaient raison. On était d'accord, a dit que c'était un phytosaure, puis ainsi de suite. À ce propos-là, là, le 26 octobre, il commence une nouvelle série, là, Historia, qui va s'appeler Secret de village, si je ne me trompe pas. Et on parle justement de la fameuse empreinte là, de reptiles.
Okay.
Donc, ces méthodes-là que j'ai rendues scientifiques, la méthode de Frottier est très simple. Et qu'on prend une mine, une barre de graphite ou une mine de crayon, on met un papier sur une pièce de monnaie et on frotte ce qu'on appelle un frottis. On frotte la mine de crayon. Les collectionneurs de monnaie, si tu vas au musée à Montréal, là, comment il s'appelle, en tout cas, peu importe, un musée à Montréal, ils ont des frottis de monnaie, des collectionneurs de monnaie de 1600 quelques. Okay? Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des frottis. Bon.
Mais je pense que même quand on était enfant, on a tous fait ça à un moment donné, prendre un objet ou une pièce de monnaie, on met un papier, puis on frotte avec le crayon pour faire ressortir
les détails, la reine, ou peu importe. Là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendu scientifique pour que tout le monde ait le même résultat. Donc, j'ai donné des contraintes au frottis, c'est-à-dire dans quel sens tu frottes, quel type de papier. Tu comprends qu'un papier plus mince donne pas va chercher des détails, c'est plus mou, tu comprends? Donc, tout ça, j'ai rendu scientifique, plus des coupes sur les doigts de pied, déposées, faites à la scie à ruban, déposées sur un papier, et on voit les profondeurs. Okay? On peut faire ça dans tous les sens, et puis là, ça permet de comparer. Ensuite de ça, j'achète des maquettes où je me fais donner dans le cas, par exemple, de qui nous concerne, là, j'ai une patte d'émeute. D'ailleurs, au congrès de 98, j'avais monté un projet partant des démarches de l'émeute pour démontrer qu'une empreinte pouvait nous révéler beaucoup plus de détails qu'on croyait. Son poids, la façon de marcher et tout ça. Donc, c'est ça que j'avais présenté au congrès d'Argentine, au congrès canadien. Et ça a fait fureur. Ensuite de ça, l'étude en profondeur, avec des colorants alimentaires. Donc, on met 1 millilitre de colorant dans le fond de l'empreinte en négatif. On prend une photo, puis on rajoute 1 millilitre, puis on prend une autre photo, puis là, ça nous donne des courbes de niveau, comme une carte topographique. Là. Donc, tu vois, c'est facile à comprendre. Ouais. Donc, la méthode de frottis, dans le fond, c'est quoi? On sert de ça tous les jours. Quand tu vas à l'hôpital, votre carte d'hôpital, elle est en relief. Hein?
Okay. Bon.
Oui. Qu'est-ce qui arrive? Vous mettez ça dans une machine. Avez-vous déjà observé la machine?
Oui.
Moi, j'étais à l'hôpital dernièrement, puis la machine était ouverte. Ce que j'ai observé, c'est un rouleau, OK, de caoutchouc qui s'imbibe d'encre. Tu mets ta carte qui est en relief et elle imprime, OK, le rouleau passe dessus.
Oui. Ben,
imaginez-vous que si on mettait un bâton de graphite, on aurait le même résultat.
C'est sûr.
Bon, tu vois. Donc, on ne peut pas nier ça. C'est très simple, c'est le principe de l'imprimerie. Tu prends un étampe, OK? Une étampe, là, c'est quoi? Ben, si tu passes de l'encre à des places, puis à d'autres endroits, tu n'en mets pas, mais tu ne l'imprimeras pas. La même chose pour le frottis. Si tu mets pas, tu passes pas le crayon ou la mine, à certains endroits, tu ne l'imprimeras pas. Donc, oui. Ce qu'on peut voir, c'est pas des coups de crayon, c'est des textures.
Oui. Bon.
Et ça, c'est très important. Cette technique-là me permet de voir les os dans l'empreinte, sur l'empreinte. Pas juste ça, c'est que quand on regarde l'empreinte, première des choses, la peinture aluminium lustré. OK? Pourquoi? Moi, j'étais en design dans les années 70 et j'ai connu la mode des tapisseries. Les fameuses, madame, peut-être trop jeune, là, seulement les fameuses tapisseries métalliques.
Oui.
OK, donc c'est trop jeune pour ça.
Et on voyait tous les défauts du mur, OK? À cause du lustré.
Ouais,
et
ouais.
C'est ce qui m'a fait penser de si on regarde la photo du plâtre qui est aluminium, ça permet de mettre en valeur les moindres détails. Donc, ce qu'on peut voir, d'abord, dans un premier temps, on voit des textures un peu en triangle qui semblent à peu près uniformes. OK? Ce qu'on pourrait dire comme des écailles. Je ne sais pas si on a déjà observé des écailles chez la patte d'un émeu, là. Ça ressemble à ça. Et on peut voir ces écailles-là qui sont distribuées d'une façon régulière. OK? Donc, faire une sculpture pour jouer un tour, je ne vois pas pourquoi on ferait autant de détails.
Oui, oui.
Bon. L'autre aspect, c'est que si on observe au niveau du talon, on peut. Ça, c'est moins évident, seulement les frottis nous le révèlent. On voit deux formes ovoïdes, OK, un à côté de l'autre. Ces deux formes-là, OK, on trouve ça chez les animaux qui marchent debout. Et notre pied à nous, là, c'est pareil. Si on fait un frottis sur un moulage de notre pied en positif, on va observer qu'on a un cercle, OK, ovoïde, qui se divise en deux.
Okay.
Quand on fait la même chose sur les plâtres du Bigfoot, on voit les mêmes choses. OK? Donc, là, déjà, là, on a de la matière à nous dire, ben, on devrait continuer. Et quand on fait les frottis, on peut voir les longueurs d'os. Et dans la partie gauche, c'est une question d'observation et d'habitude, on voit certains os dans l'orteil de gauche. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut voir, là, puis là, tu as toute une série de choses qui correspondent à une réalité. On compare les empreintes, on voit, par exemple, dans les différentes photos, on s'aperçoit que l'ergot en arrière, l'espèce d'orteil derrière le talon, a bougé dans les empreintes. OK? Donc, même l'ergot n'est pas toujours dans la même position.
Ce qui suppose un pied articulé, là, une structure articulée.
Exactement. Puis là, si on rajoute la queue à ça, bien là, on a toute une mécanique d'un animal, OK, plongé. Et c'est là qu'on a le problème. C'est que, moi, je l'ai perçu en paléontologie, à quoi ressemble une empreinte d'un animal qu'on n'a jamais vu. Trouve-moi là.
Mm-hmm.
C'est compliqué.
Parce moi, je pense au dodo. Je me dis, c'est peut-être une renaissance d'un dodo. Ouais.
Mais si je comprends
oui,
bien...
Mais, oui,
si
mais
je comprends
le dodo,
bien,
là, oui, le dodo ressemble à une empreinte de poule.
Okay.
Oui, absolument. Bon, si je comprends bien, donc, Yvon, on a trouvé ces empreintes. Elles ont tout le dossier a été un peu envoyé aux oubliettes pendant une vingtaine d'années. Tu retombes sur le dossier, tu fais des analyses et en utilisant les techniques que tu maîtrises bien avec cette technique de frottis, tu arrives à la conclusion qu'il s'agit d'un pied articulé, pas simplement d'une erreur de la nature ou d'une falsification. Et ça nous amène où? C'est-à-dire que ta conclusion est quoi? Il y a un animal inconnu qui vit dans le secteur?
Oui, mais regarde, ben, c'est pas juste ça. C'est que le monsieur qui il dit qu'il les a fabriqués. Moi, je veux bien qu'il les a fabriqués.
Oui, parce que c'est ça, faut rappeler aux gens que quelque part à l'époque, il y avait eu un aveu de fraude. Un type avait dit, Monsieur Plouffe avait dit, c'est moi qui ai fait ces empreintes-là, parce que je voulais impressionner ma mère.
C'est ça, exactement. Lui, il aurait fait ça le 9 juillet. Okay? Mm-hmm. Bon, première chose. Deuxième des choses, pourquoi il aurait mis tant de temps à sculpter une chose juste pour faire une joke?
Oui.
L'autre affaire, c'est que moi, je veux bien qu'il marche avec. Seulement, les rapports nous indiquent clair et net qu'il n'y avait aucune empreinte humaine autour, première chose. Deuxième chose importante, entre le 9 et le 24 juillet, il a plu 9 fois. Et quand on regarde l'empreinte, l'intérieur, c'est le pied droit, OK? Donc, le pied droit, l'intérieur du pied droit, il tombe à 90 degrés. Et toutes les textures auraient été effacées et l'intérieur du pied ne serait pas à 90 degrés aussi franc.
Mm-hmm. On rentre un peu dans le détail technique, mais pour les auditeurs, ce que ça signifie, parce que je sais de quoi tu parles, ça veut dire que les empreintes étaient relativement fraîches au moment où elles ont été photographiées et moulées.
Ben oui. Puis là, c'est pas que ça, là, c'est qu'on a eu un gros orage juste avant.
Oui.
Le sable en question, là, c'est un sable de plage très fin. OK? Donc, imagine-toi, là, tu mets des raquettes de 18 pouces, tu pèses 200 livres, puis tu vas me faire croire que tu es capable de descendre, OK, en marchant du talon à 4 pieds de distance, marchant du talon pour enfoncer 1 pouce et 3 quarts de profond au niveau du talon.
Oui, dans un sol qui est
au moins une tonne et demie à 2 tonnes.
Oui, déjà dans un sol compacté par les pluies récentes. Là.
Ben oui, ben récent, puis la grosse orage. Oui. Puis un sable très, très fin. En laboratoire, ça nous a révélé que ça prenait au moins 1,5 à 2 tonnes qui marche du talon. Fait qu'un un individu de 200 livres ou mal à 300 livres, il descendra jamais 1 pouce et 3 quarts de profond avec une raquette de 18 pouces.
Oui.
C'est impossible. OK? Fait que tu vois, là, ce qui est fascinant, m'a posé une question que tu connais probablement la réponse ou que tu as déjà entendu, en tout cas. Comment tu peux expliquer qu'il y a à peu près 1000 ans, on a sculpté en Iran, en Irak, deux têtes, deux brontosaures qui se croisent le cou en pierre?
Mm-hmm.
Ces brontosaures-là, là, OK, ils seraient disparus il y a 80 millions d'années, supposément. Et on les a sculptés, puis on les a sculptés exactement comme ceux qu'on a trouvés dans les années 1900, quand on a découvert les premiers brontosaures. Comment tu peux m'expliquer qu'on a pu sculpter un brontosaure, deux brontosaures, qui ressemblent à ceux qu'on a trouvés?
Ouais.
Tu comprends? Il y a un problème. Bon, ça veut dire qu'ils vivent encore. Okay? Mais c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Et là, l'affaire est la suivante. Tu te rappelles d'une émission qu'on avait faite, OK? On sait que, puis là, le milieu scientifique que j'appelle le milieu des connaisseurs. Pour expliquer mon point de vue, là, des connaisseurs, ça, c'est à peu près 90% que je dis. Ça, là, quand c'est pas dans les livres, là, ça se peut pas. Puis l'émission dont on parle, tu étais avec moi, là, on disait, bon, on sait qu'un animal du Loch Ness, il faut qu'il respire, puis on sait qu'il fait ça, puis on sait que, ben non, on n'en sait rien, on ne l'a jamais vu, puis on ne l'a jamais pas vu.
Ça demeure un mystère encore à ce jour.
Ben, tout à fait. Puis, c'est ça, c'est que, moi, j'ai des nouvelles pour ce que j'appelle ces connaisseurs-là. C'est qu'ils ne feront jamais de découvertes. Puis quand on analyse le milieu, parce que je connais très bien le milieu au Québec, pour avoir fait le tour de à peu près toutes les universités, pour rencontrer pas mal de professeurs de différents domaines, les chercheurs qui représentent 5 à 10 % un jour, on ne les entend jamais parler. OK? Puis quand on les entend parler, c'est parce qu'on touche à leur matière. OK? À leur recherche. Sans ça, on ne les entend pas. Puis là, un doctorat ne fait pas un spécialiste. Ça, je l'ai vu, moi, un des problèmes que j'ai vu en paléontologie, en Argentine, ça s'appelait le Congrès international du Mercosur sur les empreintes fossiles. Donc, c'était spécifique sur les empreintes fossiles. Et j'avais apporté la fameuse empreinte qui va passer à Historia prochainement, là. Et Il ne savait pas que c'était dans la pierre. Il ne savait pas le type de pierre. On l'a étudié objectivement. Et tout le monde a dit, oui, c'est une empreinte de phytosaure. Mais quand j'ai sorti l'âge de la pierre, on dit, c'est impossible. La question est la suivante. Comment fait-on pour analyser une empreinte en paléontologie? Il n'y a aucun paléontologue qui va accepter de voir un moulage sans voir la pierre.
Exact. Il
faut que je voie la pierre. Puis ça, j'ai une lettre qui vient de Philippe Curie de l'Alberta qui dit, si vous avez trouvé le bassin de Nodogerus, le dit fossile, dans la région de Saint-Jérôme, votre identification est correcte, c'est bien un bassin de Nodogerus, une espèce de dinosaure carapace.
Ah!
Donc, ça là, ça vient démontrer ceci. C'est que la question est, est-ce que c'est un bassin où on l'a trouvé, où la question est, le fait d'avoir trouvé dans la région de Montréal fait que c'est un bassin.
Mm-hmm.
On fait une drôle de science.
Ouais.
La question est-ce que c'est un bassin? Oui, pourquoi?
Mais dis-moi, Yvon, si on retourne au dossier du lac des Carrières, je vois le temps qui file, là, en deux minutes, d'accord. Est-ce que tu peux me dire quelle conclusion tu tires de ce dossier-là?
Moi, ma conclusion dit que on est passé à côté probablement d'une découverte importante, OK, qui ressemble plus, quand j'analyse le récit d'un bec de canard en 70, OK, en 74, oui, c'est ça, en 70, après ça, on parle de pattes courtes en avant, avant de connaître l'empreinte en 77. Ce qui ressemblerait le plus, c'est le Corythosaurus. Corythosaurus. En fait, ce qu'on appelle le dinosaure à bec de canard.
C'est ça.
Et tout concorde dans les faits, dans les analyses de la démarche de l'animal. Et moi, je pense que le devoir d'un scientifique, c'est d'aller voir et pas de se faire des accrocs. Et quand on se fait des accrocs, on dit, on le saurait, ou on se fait des accrocs, on est en train de se convaincre de ne pas y aller. Tandis que moi, je pense que le devoir d'un scientifique, c'est d'aller voir puis faire une démarche objective, sans arrière-pensée. Et là, on risque de faire des découvertes. Malheureusement, je pense qu'on est passé à côté d'une importante découverte.
Ouais, mais on peut comprendre aussi en même temps, si on dit, voilà, il y aurait peut-être un animal qui daterait de la préhistoire, qui pourrait vivre quelque part dans des marais, dans la région de Mont-Laurier. On s'imagine qu'il... Oui, mais il faudrait imaginer aussi, si on essaie d'appliquer la logique du scientifique, c'est de dire, il faudrait qu'on ait une communauté, il faut que cette communauté-là se reproduise, on devrait l'observer plus souvent.
Oui, mais là, c'est toutes des suppositions.
Ah, je suis d'accord avec toi, mais on pourrait bien sûr en discuter, mais oui, vas-y.
En terminant, prends l'exemple. Prends l'exemple. Écoute, Christian, on peut se poser des paquets de questions. Au lieu de se poser des questions, allons voir, analysons. Prenons le cas, là, en terminant, un exemple qui est arrivé dans les années 30, OK? Le fameux Coelacanthe, qui était disparu il y a 80 millions d'années. On en a pêché un. On n'a jamais voulu, OK, écouter quoi que ce soit. Monsieur, c'est Mme Latimer qui l'a envoyé un spécialiste des poissons. Lui-même a dit, ça n'a pas de maudit bon sens, il est disparu il y a 80 millions d'années. Il est assez fou pour se rendre sur place pour réaliser qu'ils avaient un coelacanthe de 150 livres.
Oui.
Il n'a même pas été capable de le publier. Il est parti à la pêche avec les gens, puis ils n'ont pêché un deuxième 14 ans après. Puis la communauté scientifique, on a dit, on le savait.
Oui. Mais ça, malheureusement, Yvon, on le sait, tous les deux, on a souvent abordé cette question-là. C'est un peu la grande problématique. On pourrait évoquer plein d'animaux dans l'histoire de la zoologie moderne qui, un temps, ont été considérés comme des animaux fantaisistes jusqu'à temps qu'on...
Le gorille.
1901, la reconnaissance du gorille.
Oui,
1901, avant, sinon le gorille de montagne avant était considéré comme un animal de légende. La même chose avec le soala, cette espèce de petite antilope avec les naseaux qui s'ouvrent et qui a été découvert dans les années 90, alors que les indigènes en parlaient depuis longtemps, mais on disait que c'était un animal de fantaisie, tu sais.
C'est ça, regarde, la conclusion là, la plus importante, c'est qu'on peut voir par méthode de frottis, puis par éclairage de surface avec la peinture aluminium, on peut voir des traces d'os. Mm-hmm. Et ça, ça ne ment pas.
Oui. Ben, écoute, Yvon, c'est tout le temps qu'on avait. Oui. Je savais qu'en t'invitant, on aurait pu faire 2 heures. Je vais te réinviter parce que tu comprends bien que je veux qu'on croise le fer sur les empreintes de Bigfoot. Parce que c'est un dossier qu'on a tous les deux suivi. On a tous les deux été impliqués, d'ailleurs, à des analyses, dont notamment Frotti. Et pour l'évoquer, Michel Divergilio, ce paléontologue spécialiste des trilobites. ont été aussi impliqués. Donc, on pourra en reparler. C'est toujours fascinant.
Ça me fait plaisir, Christian.
Ça me fait plaisir, Yvon, de t'avoir reçu à l'émission. Je sais, on manque un peu de temps, mais je pense que tu as bien résumé ce dossier. Et la conclusion, c'est si on veut le savoir, il faut au moins se donner la peine d'enquêter.
Une conclusion de 30 secondes. Si tous les gardes de chasse, au lieu de faire rire d'eux autres, s'ils faisaient des observations puis on avait une place à se référer, OK? On trouverait peut-être beaucoup de choses.
Oui, sans aucun doute.
Merci.
Merci, bye ça m'a fait plaisir. Yvon, merci, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres ce soir, Yvon.
Au plaisir.
On se reparle. Merci.
Bye-bye. Je regarde le temps, Christian. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. On n'aura pas besoin de faire une pause. C'était super fascinant. Donc, tu me donnes l'espoir peut-être qu'un jour, si c'est pas déjà fait, mais je pense pas, on aura peut-être une reconnaissance scientifique de la licorne.
Ben, c'est ça, donc, c'est là le débat. Ouais, d'ailleurs, cette histoire de licorne, hein, pour faire cet aparté, le soie-là, c'est qu'on a retrouvé dans le parc, la réserve faunique du Vu Quang au Vietnam, c'est un animal, ça ressemble à une petite antilope, et les gens disaient, parce qu'il a des naseaux, parce que comme il pêche, hein, il se rentre le nez dans l'eau, il y a des naseaux avec comme des espèces d'ailettes qui le referment pour planter son nez dans l'eau, pour prendre des poissons, pour pas aspirer d'eau, tu sais. Et quand les indigènes racontaient ça aux gens, aux blancs occidentaux qui visitaient ces régions-là, quand les populations locales racontaient ça, on disait, mais voyons, c'est de la foutaise, ça peut pas exister. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, un occidental découvre un crâne de soala qui était dans une maison, dans une cabane d'un villageois. Puis là, il voit le crâne, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, crâne des petites antilopes qu'on retrouve dans la jungle. Et éventuellement, on le considérait effectivement, là, ta correspondance avec la licorne est tout à fait exact. Les gens, les occidentaux, les biologistes, les zoologistes occidentaux voyaient l'existence du soala comme étant un animal dans la même catégorie que la licorne. Jusqu'à temps qu'en 1980, au début des années 90, je crois que c'est 1992, on a capturé un occidental a capturé un soala. Fait que là, à ce moment-là, cette petite antilope du Vu Quang, qu'on appelle aussi, est passée d'un animal de légende à un animal reconnu par la zoologie moderne. Mais il aura fallu, malgré les témoignages, il aura fallu capturer un spécimen vivant. Et c'est souvent ça le frein. Dès qu'on parle d'empreintes, on parle de témoignages. Et là, je prends pas position. Est-ce que ces animaux-là existent? Est-ce que le Bigfoot existe? Est-ce que la créature du lac des Carrés est bien réelle? Je prends pas position là-dedans. Mais c'est sûr que il y a une résistance des milieux zoologiques ou des milieux paléontologiques en se disant, ben oui, mais ces histoires-là, ces récits de créatures fabuleuses, extraordinaires, ben, faudrait qu'on ait un spécimen biologique bien vivant ou à tout le moins des restes qu'on puisse avoir dans notre laboratoire avant de reconnaître la réalité de ces animaux. Et pourtant, l'histoire récente nous montre que beaucoup de ces, plusieurs animaux considérés un temps comme des animaux de légende sont passés du mythe à la réalité parce qu'on a retrouvé des spécimens malgré que les récits étaient très anciens.
Ben merci Christian, c'était super intéressant. Excellente idée d'amener l'expertise d'Yvon également pour les fossiles. Les auditeurs ont beaucoup apprécié. On reprend ça demain sans faute.
Je vais faire cet aparté. Ce qui est plaisant avec Yvon, puis je le répète souvent, et pour moi c'est toujours un plaisir de retrouver Yvon, c'est un peu cet élément-là que je trouve aujourd'hui qu'on a de la difficulté à retrouver dans les milieux qui s'intéressent à l'étrange et l'insolite. Fantômes, ovnis, monstres, etc. On n'arrive plus à avoir des... Même si je partage pas toutes les opinions de Yvon, on est capable de s'asseoir ensemble, de discuter, d'avoir des échanges courtois et constructifs. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si c'est devenu le poison des médias sociaux, mais si tu es avec moi ou tu es contre moi, et ça empêche toute discussion comme celle qu'on vient d'avoir ce soir.
C'est pas pour rien que le slogan Radio X, c'est « Faites-vous votre propre opinion ». On vous offre un produit, vous êtes capable de réfléchir par vous-même.
Absolument.
Et l'important, c'est que ça fasse jaser, effectivement. On se reparle demain, Christian. On se laisse, je nous laisse une petite note J'ai envie qu'on parle de Blue Origin juste rapidement demain en ouverture d'émission parce qu'il est quand même arrivé quelque chose de gros aujourd'hui.
Oui, 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 et qui est marquant dans l'histoire de la conquête de l'espace, là, c'est qui va avoir des conséquences. On s'en reparle demain, absolument.
Bonne fin de soirée et aux auditeurs plaisir. Également. On se retrouve demain.
OK, bye bye.
Bye.
Radio X Files.
Radio X.